là-bas.
Allô la planète, du lundi au jeudi à 23h.
France Inter présente Françoise Hardy. La pluie sans parapluie.
La peine vaudrait bien le prix de ce dernier détour. Tant pis pour tous les non-dits, les straves et nos secours. Noir sur blanc.
Retrouvez Françoise Hardy et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter. France Inter.
La différence.
15h04, là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Oui, bonjour Daniel, bonjour tout le monde, bonjour les Français. Olivier du Nord, voilà, je voulais signaler que moi, retraité, je gagne 620 euros par mois, avec lesquels, bien entendu, je ne peux guère manger correctement, me chauffer correctement, encore moins me soigner correctement. Et donc, cet individu qui dépense 116 000 euros, il faudrait bon qu'il sache que cela représente 15 ans de ma survie. Comme on dit en Belgique, pension de survie. Merci.
Oui, allô France Inter. Oui, c'est Monsieur Jean-Pierre Fauconnier, là, directeur de la publicité chez Préfonds Retraite, là. Oui, je vous appelle parce qu'il y a une émission parfaitement dangereuse pour nos intérêts qui est passée juste avant notre publicité de 15h59, là. Notre publicité qui fait miroiter une rente à vie pour les retraites des alouettes fonctionnaires ou assimilées. Bien sûr, c'est du vent, mais la publicité, ça sert à quoi si ce monsieur Mermet prévient les pigeons juste avant qu'on les plume? Ça va pas du tout, là, hein, nos investissements sont menacés, hein. Où en est le service public, là? On retouche le fond, hein, enfin, avant le fond, c'est le préfond, mais quand même, je voudrais joindre monsieur Philippe Val pour me plaindre, hein, merci de rappeler, hein.
Oui, j'appelle parce que j'entends la, l'histoire de Natixis, là, et, ben, je sais pas, moi, j'ai eu, il y a quelques années, là, quand c'est sorti, j'étais contacté, je suis à la caisse d'épargne, personne n'est parfait, depuis très longtemps, et ma conseillère, qui est très très sympathique et très agréable, m'avait conseillé de prendre quelques actions chez Natixis parce que ça allait être un truc super intéressant. Bon, j'avais quelques sous de côté. Tiens, je vais en prendre. Et à peine quelques jours après, j'entends qu'à Le Vigan, il y avait une usine qui appartenait au groupe et on a licencié, la maison Natixis a licencié et fermé une usine qui fabrique des collants, etc., au Vigan. Donc, un sursaut de civisme et m'a pris, et ben, j'ai revendu immédiatement ces actions, et ben, je n'ai eu qu'à m'en louer, mais le sursaut de civisme m'a sauvé de la perte de quelques euros que je devais avoir mis là-dedans. Et voilà, et je me suis remis à la caisse d'épargne, comme tout bon blaireau qui se doit. Voilà, et bonjour à tous, et salut les ONG.
Bonjour Daniel, quel reportage sur Natixis. Pour tous les pigeons qui ont raté donc cet épisode extraordinaire, il en reste certainement un à ne pas louper dans les années qui viennent, comme l'a bien dit ton dernier intervenant. La Poste, magnifique entreprise de service public qui bientôt sera, et déjà depuis plusieurs années sera bradée et mise en bourse. Nos dirigeants donc n'attendent bien évidemment que cela et tous les postiers auront le privilège de se voir attribuer gratuitement une poignée d'actions. Et bien évidemment, ne les refuseront pas ces actions, en achèteront peut-être même bien d'autres encore. On verra donc le résultat final dans quelques années. Voilà, je vous donne un autre rendez-vous, donc à très bientôt à tous les pigeons qui sont restés sur le bas-côté. Merci pour tout. Bye.
Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour Daniel. C'est Laurence de la Roque d'Anderon. Je vous appelle au sujet de votre émission sur les banques, là. Savez-vous que Finaref, l'assurance de Finaref, c'est le Crédit Agricole? Ils assurent les clients de Finaref et le crédit monte jusqu'à 20%, c'est microcrédit. J'ai une sœur qui avait 5000 euros de crédit et au bout de 5 ans, il faut en rembourser 10 000. Et quand vous avez un petit souci de santé que vous voulez faire marcher l'assurance, alors tout, ils s'engouffrent dans les failles, quand il y a des failles. Et donc, vous payez l'assurance, mais en fait, vous n'obtenez jamais que l'assurance prenne le relais. Hein. Ils sont très très forts dans ce coup-là. Alors pour 180 euros de remboursé, eh bien, il y a 100 euros de frais entre l'assurance et les crédits, quoi, et le taux de remboursement, quoi. Ça monte jusqu'à 20%. C'est horrible. Les gens n'arrivent plus à payer. Ils ont ces microcrédits pour payer les factures, électricité, eau, pour manger, à la rigueur. Mais ils s'engouffrent là-dedans et c'est l'horreur. Et le bon crédit agricole sert d'assurance. Et tous les crédits viennent d'Irlande. C'est horrible. Voilà. Gros bisous à tous. Au revoir.
Émission du mardi 30 mars. Merci Daniel pour avoir contribué à dégonfler la baudruche Natixis. Et par la même occasion, une réflexion morale nous est proposée sur notre fichue propension à la cupidité. Toujours vouloir plus, gagner plus, profiter. Ce qui n'excuse pas pour autant les malhonnêtes qui ont profité des pigeons. Merci, cette émission rattrape beaucoup d'autres qui n'avaient pas du tout mon adhésion. C'est un travail admirable. Bonsoir.
Je voudrais répondre à l'émission sur Natixis. Je suis une institutrice à la retraite et je reçois maintenant depuis le 1er avril mes aides ménagères par l'intermédiaire de Natixis. C'est quelque chose, je voudrais savoir si la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale compte parmi les 2 800 000 pigeons qui ont été grugés. Parce que j'ai tout à fait l'impression que les finances de la MGEN sont passées dans les mains de la banque, qui maintenant règle depuis le 1er avril de l'année dernière les aides ménagères, mais en les ayant diminuées de moitié. Voilà.
J'étais médecin conseil à Marseille jusqu'à ma retraite fin 2008. Et en écoutant les émissions là de sur Natixis, j'ai tout compris. J'ai tout compris de ce que j'ai vécu là dans mes dernières années de travail, où je voyais beaucoup d'employés de la caisse d'épargne, principalement des chefs d'agence, en arrêt de travail pour dépression. Dépression pour harcèlement. Et ce qui m'avait amené à dire que je voyais autant d'employés de la caisse d'épargne déprimés que de toutes les autres banques réunies. Alors là, je viens de comprendre quelque chose. C'était un autre aspect de la question de l'histoire de Natixis. Au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Ça vous a intéressé, l'histoire de Natixis et des 2 800 000 pigeons qui se sont fait pigeonner par Natixis. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un personnage très mystérieux. Quelqu'un qui nous étonne beaucoup, tant il est... Tout le monde en dit du bien. Mais avant de parler de lui, je voudrais m'interroger devant vous. M'interroger sur la com. Sur les campagnes dans lesquelles les uns et les autres se lancent pour se mettre en avant, pour vendre un livre, qui un spectacle, qui sa politique, etc. Et j'en conclus que vous êtes très ingrats. Vous êtes des gens ingrats. Regardez les efforts déployés par Bernard-Henri Lévy pour le lancement de ces deux livres, l'un intitulé « De la guerre en philosophie » et l'autre « Pièce d'identité ». S'il y a quelqu'un qui a fait un tapage autour de la sortie de ses livres, c'est bien Bernard-Henri Lévy. Il fait toujours des campagnes formidables, une com admirée par tous les spécialistes de la communication. Personne n'est aussi bon que Bernard-Henri Lévy. Eh bien, le résultat, c'est que depuis que ces deux livres sont sortis, c'est un flop en librairie. Vous êtes vraiment ingrat. De la guerre en philosophie ne dépasse pas 5000 exemplaires, et l'autre livre de Bernard-Henri Lévy, Pièce d'identité, ne dépasse pas 3500 exemplaires, c'est-à-dire que c'est un flop comparé à un autre artiste qui s'appelle Jean Ferrat. Jean Ferrat, fin octobre dernier, a sorti une compilation de ses chansons, sans aucune espèce de promotion, sans aucune espèce de passage télé, de pub, d'interview, de rien du tout, même de passage radio, un petit peu de temps en temps sur Radio Nostalgie, ou bien dans la base où j'y suis, mais assez rarement. Eh bien, en l'espace de un mois et demi, il avait vendu 100 000 exemplaires de sa compilation sans aucune espèce de com. C'est quand même extraordinaire. Ça nous interroge. Hein. Ça nous interpelle. Et puis celui, le grand champion de la communication, évidemment, c'est notre président de la République, et sans cruauté aucune, on peut se demander si cette com est utile et efficace quand on voit où il en est dans l'estime de ses compatriotes. Alors, celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un homme idéal. C'est un homme parfait. Donc personne ne dit du mal. On a regardé, on a fait une recherche de documentation. Personne n'en dit du mal. Impossible de trouver une critique sur cet homme-là. Tout le monde l'aime bien. Il est bien. Il est normal bien. Il est neurobiologiste. Il fait partie du gouvernement. Enfin, il en faisait partie jusqu'à ses jours derniers. Je veux parler de Martin Hirsch. Et oui, les rigolos, les comiques s'attaquent à Besson, s'attaquent à Hortefeux, qui sont des exécrés officiels, peut-on dire, de notre présent. Mais Martin Hirsch, pas du tout. C'est le brave type, lisse, le monsieur nobody, gentil. Il fait des choses comme ça. Il plaît à gauche, il plaît à droite, il plaît à ma belle-sœur. Il plaît absolument à tout le monde. C'est quand même mystérieux. Alors j'ai demandé au meilleur reporter de la Basse J'y suis, c'est-à-dire à Olivier Villain et à François Ruffin, d'aller enquêter et voir s'il existait sur cette planète, dans ce pays au moins, quelqu'un qui pourrait émettre quelques critiques envers Martin Hirsch, qui entre dans l'espace de ce reportage, a quitté le gouvernement. Je pense qu'on va apprendre quand même pas mal de choses. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Je vous appelle de Lyon pour vous dire que Guilherme est en prison une nouvelle fois. Il a 4 enfants nés en France, dont 2 avec Florence, qui elle a le droit de rester ici. Mais lui non, après 7 années passées en France, il faut qu'il dégage. Comment peut-il embarquer en laissant ses propres enfants? Qui le ferait? Monsieur Géraud, préfet du Rhône? Monsieur Besson? Ou Monsieur Sarkozy, le feriez-vous? Guilherme s'est enduit de matière fécale. C'est tout ce qui lui restait pour ne pas embarquer. Menotté, saucissonné, roué de coups. Vous entendez? Guilherme s'est enduit de caca. S'enduire de caca ne fait pas changer de couleur. Voilà. Cette fois, vous l'avez l'odeur. Et vous la connaissez bien, celle-là, parce qu'elle vous ressemble. Aujourd'hui, faisons du bruit pour que Guilherme reste ici. Guilherme, j'ai peur que ton cœur ne lâche face à cet acharnement. Quelqu'un a dit, Gandhi te sourit. Et moi, j'aimerais qu'on soit des milliers à te faire un cordon de protection. Soyons devant les grilles de prison, devant les avions. Ne laissons pas notre humanité s'envoler. Voilà, c'était Marielle, de Lyon.
Bonjour, c'était uniquement pour préciser que les services du Pôle emploi sont actuellement indisponibles du fait d'une forte sollicitation. Donc on nous demande de bien vouloir les excuser et de les contacter ultérieurement. Je parle évidemment d'Internet. Donc difficile d'actualiser sa situation, difficile de recevoir l'indemnité, difficile de trouver du travail, difficile de rentrer en contact avec Pôle emploi. C'était Vasco à Charolles. Merci, au revoir.
Le prochain Café Repère d'Alès, dans le Gard, aura lieu ce mercredi 31 mars à 19h, au lieu habituel, c'est-à-dire au Vintage Bike Café, au 48, route du Pont de Grabieux, à Alès, face à Monsieur Meuble. Pas de thème précis. Venez donc avec vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos cris de colère et d'amour. À ce soir donc.
Oui, bonjour l'équipe de Le Bas, si j'y suis. Je vous appelle parce que j'ai entendu une information, je ne sais pas si elle sera confirmée, comme quoi les dirigeants des Continentales auraient proposé un contrat à 137 euros par mois en Tunisie à des gens qui étaient sur le site de Clairvoy. Je voulais dire que je trouve ça vraiment dégueulasse. À bientôt et merci pour votre travail. Salut.
AMG du Pas-de-Calais, n'oubliez pas la réunion du repère à Monchy-Breton chez Tartous et compagnie ce jeudi 1er avril, et ce n'est pas un poisson, à partir de 18h30. À bientôt.
J'ai écouté ton intervention hier sur l'histoire du bal du ciment, qui apparemment t'a bien fait rigoler. Mais toujours sur le même sujet de Jean Ferrat, j'en ai une autre que je trouve savoureuse également, et qui vient de la sœur de ma femme, qui avait laissé un message très émouvant au lendemain de la mort de Ferrat. Véronique, donc sa sœur, en écoutant la phrase « aimer à perdre la raison », avait depuis l'enfance compris « Émile a perdu la raison ».« Émile a perdu la raison ». Et il lui a fallu attendre l'âge de 20 ans pour comprendre, en découvrant le texte, qu'Émile n'était pas fou et qu'il n'existait même pas. Voilà, donc un petit plaisir de la part de Gilles. Très fier d'être associé aux 2 799 999 autres pigeonnés de Natixis. Vive là-bas si j'y suis. Allez, résistons, on les aura.
Une retraite complémentaire dans un cadre fiscal avantageux. Chez FDMA, nous avons des réponses. Posez des questions. Rendez-vous dans une agence FDMA pour un diagnostic gratuit de vos besoins d'assurance.
Bon, ouais, Daniel, là, je rejoins la gare pour me rendre à Paris pour le reportage que tu m'as demandé sur, sur Martin Hirsch avec Olivier Vilain. Bon, faut que je te prévienne que avec Martin Hirsch, je serai peut-être pas d'une objectivité à toute épreuve, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai une dent, et c'est peut-être une grosse dent, une molaire, contre Martin Hirsch, hein, avant même son entrée au gouvernement. En juin 2005, bon, juste avant, pour le 29 mai 2005, il avait opté pour un oui subversif. Il avait un peu entraîné, manipulé l'abbé Pierre pour que l'abbé Pierre serve de caution sociale au oui au traité constitutionnel européen. Et puis juste après, je me souviens, j'étais comme ce matin, j'étais en voiture, c'était le 8-9 de France Inter, j'étais dans les Alpes pour un autre reportage pour là-bas si j'y suis, et puis il y avait Martin Hirsch qui était invité à la radio comme président d'Emmaüs en juin 2005, qui expliquait pourquoi Emmaüs soutenait la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Je sais pas si tu te souviens, à un moment on voulait absolument avoir les Jeux Olympiques à Paris. Pourquoi Emmaüs soutenait la candidature de Paris aux Jeux Olympiques aux côtés de Lagardère, Accor, Airbus, Air France, Bouygues, Carrefour, Crédit Agricole, EDF, France Télécom, GDF, Lafarge, LVMH, le groupe Publicis, la RATP, Renault, Sanofi Aventis, Sodexo, Suez, Vedurbis. On se disait, bon bah, est-ce que c'est vraiment la place de Emmaüs France aux côtés de toutes ces multinationales? Et lui, il expliquait que oui, que les Jeux Olympiques, ça allait être une superbe occasion pour les pauvres, parce que les pauvres d'Emmaüs, ils allaient ramasser les ordures à la fin des Jeux Olympiques. Ils allaient en faire des très beaux objets qu'on pourrait éventuellement exporter, et comme ça, eh ben, ça démontrerait leur utilité sociale, l'utilité sociale des pauvres. Alors bon, voilà, faut se garer.
Salut, c'est Daniel Mermès, c'est là-bas si j'y suis, avec Olivier Vilain et François Ruffin. Pauvre Martin, pauvre
Flight
Italien.
Number 2, arriving from
Alors, dans les magazines d'école de commerce, parce que c'est quelqu'un qui va dans les écoles de commerce et puis tout ça, hein. Martin Hirsch était très fier que les pauvres puissent ainsi donner, alors là je le cite, une deuxième vie au chiffon, au papier, aux métaux lourds. Et cette action viendra bousculer les stéréotypes sur la pauvreté, puisque avec les JO, l'Emmaüs sera associée à une manifestation positive qui véhicule une image de performance, d'où un partenariat citoyen donnant-donnant. Donc après cette charité mal ordonnée, j'ai été très inquiet quand j'ai vu début 2007 Martin Hirsch aux côtés de Ségolène Royal pour un débat sur le travail à Strasbourg durant la campagne présidentielle. Là, si tu veux, Alain Touraine, Bernard-Henri Lévy plus Martin Hirsch, j'étais absolument convaincu de la défaite de Ségolène Royal. Si on traite du travail par le biais de la charité, du caritatif, du bon cœur, c'était ça l'approche du travail dans la gauche de 2007. J'étais convaincu que Ségolène Royal allait vers un désastre électoral. Alors là, devant la gare, il y a un postier en grève qui distribue des tracts. Bon courage pour la journée. Hein. Et quand Martin Hirsch est rentré au gouvernement de Nicolas Sarkozy en mai 2007, je ne me suis pas exclamé « Oh, la prise de guerre !» Non, franchement, j'ai trouvé que c'était sa place dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy et que l'imposture, c'est quand il se mettait à côté de l'abbé Pierre pour en choper la lumière, pour être sur la photo.
Le départ de notre TER à destination de Crailly est imminent. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Bon, bah voilà, on est parti à Paris pour rencontrer d'anciens salariés d'Emmaüs.
Il est gentil, il est bien, il fait des choses, il fait ce qu'il peut, il est pas de droite, plutôt à gauche, enfin, puis la politique ça l'intéresse pas vraiment, et puis la compassion, et puis l'héritage, quel héritage ? L'héritage de l'entreprise charitable la plus populaire en France, Emmaüs, est la figure la plus populaire, la plus respectée, la plus admirée par les Français, c'est-à-dire celle de l'abbé Pierre. Voilà, Martin Hirsch. Pourquoi s'en prendre à cet homme-là? Il y a tellement d'autres qui méritent notre attention et nos critiques acerbes et nos enquêtes. Et ben voilà, c'est une idée que nous avons eue de voir un peu. Il y a un mystère Martin Hirsch, justement à cause de ce côté lisse, gentil, nobody et gestionnaire. En tout cas, qui a plu et qui plaît à l'ensemble des médias français, peut-être pas de l'opinion, mais en tout cas des Français, et l'opinion majoritairement. Il y a peut-être des grincheux ça et là, vous savez, il y a toujours des gens qui sont pas contents, par exemple ceux qui avaient remarqué que pour le lancement, la campagne du lancement du RSA, on avait dépensé 2,2 millions d'euros, soit 400 années de RMI, ou 120 années de SMIG, ou 85 années de salaire médian. Le salaire médian, c'est 1500 euros le salaire médian. Mais ça, bon, les médias ont mis ça de côté pour dire Martin Hirsch, ou la volonté d'être utile, selon une dépêche de l'AFP, reprise par les Échos, par la Croix, enfin par toute la presse. Hirsch n'a rien renié. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, Hirsch, mission accomplie et départ choisi, c'était dans Libération, applaudissement de Libération, qui tresse une couronne de laurier à Martin Hirsch, je cite, le haut commissaire a mis en place son RSA sans se renier, il était au service d'une politique et se défendait de faire de la politique de tous les ministres de gauche, il était le seul à avoir pris au mot Nicolas Sarkozy qui assurait que l'ouverture n'impliquait pas que l'on renonce à ses convictions. Et voilà. Eh bien, l'hypothèse de départ de ce François Ruffin, c'est « Et si c'était ça le pire ?» Si, en effet, il n'avait pas renoncé à ses convictions parce qu'il n'avait pas de convictions auxquelles renoncer. Si l'imposture, vous rendez compte, on n'a pas commencé le reportage et on parle déjà d'imposture, comment voulez-vous parler d'objectivité si on commence comme ça? Si l'imposture, c'était l'inverse,
quand on le qualifie de gauche, quand on le présente en héritier de l'abbé Pierre. Là, il y a quand même un point d'interrogation et nous allons avoir, j'espère bien, des éléments de réponse d'ici à 16h dans la base, si j'y suis, Martin Hirsch, pauvre Martin, pauvre misère.
Comment ça va par chez toi? T'as ramassé ce que t'as cassé? Pour cet hiver, ça ira le bois. Et ta plaie s'est-elle effacée? Fais gaffe à pas rester tout seul. Dans ta tête, les nuits sont pas sûres. Si le sol s'effondre, faut que tu gueules. Faut plus que ça pleure sur ta figure. Assis à côté de nous, ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler, rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Dehors, t'as vu, ça bastonne sec. Y'en a à dire que c'est la vie. Ben on la vivra, pas vrai mec? Ou bien t'as toujours plus d'avis? On se le repartage ce banc. On se le recompte ces étoiles. On se les repulvérise ces moments. On se le retisse ces voiles. Il s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler, rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Sûr qu'on s'est toujours bien menti. Et pourquoi qu'on changerait maintenant? Cogne-moi le front, mon ami. Si ça claque, on est corps vivant. Va falloir qu'on se remette à rire. Je t'ai dit que tu m'as manqué. Tu sais, moi aussi j'ai vu le pire. Je suis venu me réfugier.
On arrive à Neuilly-sur-Marne, on arrive à la Cité du Printemps. Il y a un camion d'Emmaüs tout ouvert avec des habits à l'intérieur, un vieux poste de télé, ainsi de suite. Bon.
Bonjour, c'est Olivier Villain et François Ruffin. Merci.
Bonjour.
Alors, on arrive à Emmaüs, à Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne, c'est un des hauts lieux d'Emmaüs, je me souviens, chers auditeurs, de cet endroit dans mon enfance, des camps de l'abbé Pierre, dans la Gadoue, où on avait récupéré, dans des grandes tentes militaires, des pauvres airs, des pauvres gens, la mobilisation générale, l'insurrection de la bonté qu'on avait entendue sur les radios, enfin pas sur les radios, sur Radio Luxembourg, avait amené là des gens, des environs, saisis par à la fois un mélange de solidarité, de charité, d'étonnement dans ces années où la France n'était pas ce qu'elle est devenue depuis. C'était un pays avec des grosses difficultés, des bidonvilles. On était au début des Trente Glorieuses, je parle de 1954, et c'était bien difficile. Et il y avait eu là, cet hiver, des gens, une personne qui était morte de faim, si j'ai bonne mémoire, ou de froid plutôt. Et ce qui avait suggéré, ce qui avait suscité cet appel, cette insurrection de la bonté et l'invention du tapage. Mais médiatique pour les grands spécialistes, les grands virtuoses du tapage médiatique. Quelqu'un comme Bernard Kouchner, par exemple, a reconnu dans l'abbé Pierre l'inventeur du tapage médiatique. Ce domaine dans lequel Bernard Kouchner est devenu un expert absolument formidable. Et Martin Hirsch ne s'en est pas mal tiré. Là, on arrive avec ses militants, chez ses militants d'Emmaüs, et il y a là des jeunes gens paumés qu'ils viennent de repêcher.
Voilà pourquoi on accueille ce jeune couple ce matin. On a vu les deux personnes qui sont là, qui dorment dans une voiture depuis des mois. Alors là, quand même, notre petit cœur d'Emmaüsien, c'est pas supportable. Bon, alors on s'est bien mis d'accord vite, et ce matin, donc, eh bien, on se rencontre, et puis, ils vont avoir un petit studio qui s'est libéré. C'est quand même très chouette.
On n'a pas le choix, de toute façon. On a le choix, si, de retourner à la voiture ou de rester à l'hôtel du 115, mais maintenant qu'on a le studio, on va pas hésiter, hein, ça c'est sûr.
Là, t'es confortable, la voiture?
Oui, mais c'est seulement parce que c'était une voiture de collection. C'est une Lancia, c'est un riche propriétaire, enfin un riche propriétaire, j'ai riche, mais je trouve qu'il ne l'est pas. Simplement, il a deux voitures, dont une de collection.
Et il le savait que vous dormiez dans sa voiture?
Je suis pas sûr. Je sais qu'il a été mis au courant qu'il y avait, quelques personnes qui venaient fumer dans sa voiture. Mais pas dormir, squatter, voilà.
Vous êtes resté combien de temps dans la voiture, là?
Un an et demi. Toi, ça fait...
Depuis le mois de juillet, mais en coupure, plutôt j'y allais déjà avant.
Vous avez gagné un petit peu en confort, maintenant. Mmh. Même si c'était une Lancia.
Quand on est dehors, en hiver, on se couvre un maximum, parce qu'on a la chance, au moins, même si c'est des affaires qui sont pas très esthétiques, au moins elles sont pratiques, et on se réchauffe un maximum quand on est à l'extérieur. Quand on est dans la voiture, c'est pareil, c'est compliqué, mais on a des duvets bien chauds offerts par une association. Et donc on a su se tenir au chaud et ne pas être trop malade, parce qu'on l'a quand même été. Après, voilà, on se colle. C'est comme à l'armée, comme...
C'est surtout le matin quand on se réveillait. C'était là où il faisait le plus froid. C'est quand on sortait de la voiture et en fait, on sentait le froid d'un coup.
Alors déjà, c'est les tremblements qui nous réveillent. Ensuite, les tremblements qui nous empêchent de viser bien pour allumer sa cigarette ou plein de trucs comme ça. Voilà, on a des courbatures. Je me souviens combien de matins où on se réveillait, j'étais comme ça, je devais me craquer le dos et tout. Parce que... Il y a un monsieur qui a été viré de chez sa femme, en fait, et qui a dormi dans sa voiture à lui, qui nous a causé bien des problèmes. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il prenait les alentours de notre voiture pour des chiottes, quoi. Et il chiait, il pissait, c'est vraiment une odeur insupportable. On le sentait tous les soirs en rentrant dans la voiture. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. Ou même, on essaye de faire le plus vite possible, sachant qu'en plus, il fait très sombre. Il faut une petite lampe. Et à l'origine, on ne l'avait pas, la petite lampe. Hein. Donc, on galérait à trouver des affaires dans le coffre, sachant qu'on n'avait pas non plus envie que les affaires qu'il y avait dans le coffre sentent la pisse ou la merde. Donc, on faisait le plus vite possible. Donc c'est soit les duvets, et en fait, l'odeur, elle s'imprègne à l'extérieur.
Vous bossez?
Oui, je travaille. Oui. J'ai signé le contrat hier. Ça fait une semaine et c'est un CDI et à temps complet. Donc serveur dans un restaurant, serveur en salle. C'est un petit restaurant sympa et je m'y plais. Maintenant CDI, voilà, et je suis content.
Et c'est un CDI avec le l'appartement.
Ce sont des contrats, ce sont des beaux, et là c'est pour 6 ans, et puis on repart après. En ce temps, dans 6 ans, vous n'ayez plus besoin de nous.
Sur le bas, il y aura un autre nom.
Ah bah absolument. Ah mais oui, on a fait les papiers courts, on a préparé ça. Bonne et due forme, vous devenez locataire, avec des droits et des devoirs. Voilà. Venez. Voilà notre petit.
Alors, sur le bureau à côté, il y avait un calendrier de Natixis.
Ah oui, ça c'est tout bête, c'est parce que ma fille y travaille, elle me les a rassemblés gratuitement. Je vous dis pas non plus les stylos qu'elle me ramène, comme ça nous coûte pas trop cher en fin de gestion.
Mais il y avait surtout des papiers Emmaüs ensemble pour agir. Mmh. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez
Oh, je suis rentrée Emmaüs en 1965. J'ai passé 43 ans à l'association Emmaüs et mon mari, lui, qui était rentré en 54 à l'appel de l'abbé Pierre. On était vraiment tous les deux très engagés dans le mouvement. Je ne dis pas, il y avait des sortants de prison, des gardes d'Indochine, vous savez, les baraqués de l'époque, etc. Et moi, la gamine de, alors, bon, je veux dire 18 ans, quoi, hein, il n'aurait pas fallu que quelqu'un touche à un de mes cheveux, quoi. Ils étaient protecteurs comme pas deux, ils étaient heureux de voir une jeunette qui venait, qui passait une soirée avec eux. Bon, donc, pour nous, on a eu l'impression de vivre au quotidien ce qu'on nous demande dans l'Évangile.
Et vous avez rencontré l'abbé Pierre ?
Ah oui, X fois, l'abbé Pierre, c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour nous, je dirais presque un père spirituel. Les idées qu'il a eues, c'était génial, sa façon de parler aux foules, de savoir remuer les gens. Quand vous sortiez d'un entretien avec l'abbé Pierre, vous étiez gonflé, attendez, vous alliez en avaler les choses. Hein. On a eu la chance de le rencontrer énormément de fois, bien sûr, à la maison, chez lui, en cadre de conférences, de boulot, on a fait un tas de choses ensemble. Et puis bon, quand il y avait quelque chose qui allait pas, s'il avait une idée à 11h du soir, à 2h du matin, il téléphonait à Michel. C'était l'abbé. Bon, mais...
Janvier 54, Paris grelotte par moins 15 degrés.
France 2, 31 janvier 2004.
Dans cette après-guerre, 29% des Français n'ont ni eau courante ni électricité. Dans les faubourgs, les bidonvilles se multiplient. Le 7 janvier, le petit Marc, 3 mois, meurt de froid dans les bras de sa mère. Le prêtre député Henri Grouès, de son nom de résistant Abbé Pierre, appelle à l'insurrection de la bonté.
Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
L'abbé et ses compagnons rassemblent jusqu'à faire des émules. L'année 80, Coluche et les Restos du Cœur, 90, le DAL et les 100 logis. Depuis 2 ans, l'abbé Pierre a confié son bâton à un nouveau pèlerin, Martin Hirsch, normalien, neurobiologiste. Énarque atypique.
Le principal cadeau, le seul cadeau que le mouvement Emmaüs peut faire à son fondateur, c'est de lui dire que le combat continue.
Après, l'abbé Pierre s'est mis en retrait, puis il est décédé. Emmaüs est enfin devenu sérieux. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait l'abbé Pierre, il n'était pas bien rasé, il portait des habits vraiment étranges, pas du tout de son époque, il n'avait pas fait d'études supérieures. Et enfin, Emmaüs s'est choisi un successeur à l'abbé Pierre, en la personne de Martin Hirsch, qui lui était correctement habillé, qui...
Je vous rassure, on ne l'a pas choisi sur la couleur de sa cravate quand même.
Et qui avait fait des études supérieures, qui était passé par l'ENA.
Intellectuellement, il avait les capacités. Mais c'est vrai que on voyait que Martin, c'est quelqu'un qui a été non pas formé, mais formaté par l'ENA. Martin, il a été Emmaüs qu'un dirigeant. Il n'a jamais, je dirais, mis les mains dans le cambouis. Je vous parlais d'Henri Camus. Je vous parlais de mon mari. Je vous parlais de Jacques Lazare, Lilas, qui était le patron du BHV. On a eu des gens qui avaient vraiment une autre destinée, qui ont fait ce choix de vie, de venir à Emmaüs, mais qui ont fait les soupes de nuit, qui ont... si c'est du tri de chiffon, on va faire du tri de chiffon. Si c'est donner des soupes de nuit, on va donner des soupes de nuit. Si c'est amener des meubles à une famille, on va le faire. Bon.
Vous n'avez pas vu Martin Hirsch aux soupes de nuit ?
Ah non.
Vous l'avez pas vu porter des meubles ?
Non.
Et vous l'avez pas vu faire du tri de chiffon ?
Non. J'ai jamais supporté... Je comprends qu'il y ait des pauvres, je comprends qu'il y ait des riches, mais qu'il y ait une telle différence aujourd'hui, et qu'on ne l'a... Écoutez, excusez-moi, mais c'est vrai que je deviens révolutionnaire, mais qu'on nous crache à la figure toute cette richesse. Mais c'est révoltant. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on attend, effectivement, pour pas foutre la révolution.
Mais c'est bientôt fini, tout ça, de toute façon.
La pauvreté. Celui qui y croit, celui qui nous raconte ça, c'est un beau menteur.
Martin Hirsch, il a promis, il a dit...
Non, mais sérieux, tous les hommes politiques vous l'ont promis, on peut pas les croire.
Mais il a dit quand même hein, que ça allait baisser de 30%.
Oui, non, mais il dit ce qu'il veut, et moi aussi, et j'y crois absolument pas. Et dans le monde des meilleurs, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui y croient, ni dans tous les gens qui s'occupent des gens en difficulté. Non, ça, de toute façon, attendez, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le fait au niveau du social ? Qu'est-ce qu'il y a de fait ?
Le bouclier fiscal ?
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est du social pour les grands riches, oui.
Ensuite, il y a eu le sauvetage des banques, mais ça aide.
Oui, c'est ça. Et puis celui qui veut un petit crédit pour un petit achat, il peut pas l'avoir.
Voilà. Ouais, mais ensuite, vous savez, c'est bon, le gâteau, on voit bien qui c'est qu'il mange, mais s'il y a du gâteau de produit, il reste des miettes quand même après.
Oui, je préfère quand même piquer le gros gâteau aux riches pour le donner aux pauvres.
Mais ça, c'est ce que Martin Hirsch est en train de faire discrètement.
Non, c'est ce
qu'il dit. Mais moi, vous savez, moi, j'aimais bien l'abbé Pierre. Oui, je me dis, c'est pas possible que le fils spirituel de l'abbé Pierre, il mente quand même.
Non, c'est pas du tout le fils spirituel de l'abbé Pierre. Mais Martin n'a jamais été le successeur de l'abbé Pierre.
Pourtant, ils ont écrit un livre ensemble. Il y avait leur photo à tous les deux sur la couverture du livre. À un moment, quand on voyait la photo de l'abbé Pierre, on voyait celle de Martin Hirsch à côté.
Mais attendez, être président d'Emmaüs France, c'est quand même une belle carte de visite. C'est un beau piédestal pour un superbe avenir. Je dirais bien que sa position actuelle en est la preuve. Enfin, être président d'Emmaüs France, pour notre président Sarkozy, ça faisait bien d'avoir quelqu'un qui venait d'Emmaüs.
C'est-à-dire qu'il captait un peu toute la lumière.
Oui.
Il captait un peu toute la lumière et Martin Hirsch a réussi à se mettre sur la photo à côté du bonhomme pour capter une bonne partie de la lumière.
Il prenait un petit peu de son l'auréole et...
L'auréole de l'abbé Pierre. Saint abbé Pierre est devenu Saint Martin à moitié, quoi.
Voilà, si vous voulez. C'est quelque chose près ça.
Le talk Orange Le Figaro, 2 février 2010.
Question rapidement d'un internaute qui s'appelle Mal au ventre, qui trouve que les inégalités augmentent selon le rapport annuel publié lundi par la Fondation Abbé Pierre, et qui vous demande que faites-vous encore dans ce gouvernement? Ne pensez-vous pas que votre caution est désolante pour des milliers de bénévoles associatifs?
Écoutez, c'est pas ce que me disent des...
Martin Hirsch.
Beaucoup de bénévoles associatifs. En fait, j'ai un certain nombre de capteurs, c'est-à-dire que celles et ceux qui me faisaient confiance quand j'étais à Emmaüs, moi je leur demande régulièrement, ou ils me disent spontanément, s'ils trouvent que je sers à quelque chose. En général, ils me disent que oui, la plupart d'entre eux. Et puis, je crois que chaque jour où je suis au gouvernement, j'essaye de faire le mieux possible.
Donc, vous êtes toujours bien
possible.
Dans le gouvernement.
C'est pas une question. Je suis pas rentré au gouvernement pour prendre mes aises ou pour être bien. Je faisais des choses avant. Je les fais dans le même esprit. D'accord. Je les ferai dans le même esprit après.
Mais alors, vous avez eu quand même votre moment de gloire, Emmaüs.
Ah, bah, de toute façon.
Non, mais je veux dire, quand Martin Hirsch a été sélectionné pour rentrer au gouvernement, ça a quand même été un grand moment. Enfin, un ministre issu d'Emmaüs, quoi, vous faites non de la tête là, mais c'est quand même un moment, vous avez dû applaudir, tous, être heureux devant...
Non, ça n'a pas été un moment de gloire, vraiment, mais alors même, je dirais pas du tout... À la limite, comment est-ce qu'on peut avoir été président d'un mouvement Emmaüs, soi-disant proche des... Enfin, pour lui, soi-disant proche des gens, et être après dans un tel gouvernement qui n'œuvre qu'en fonction des riches? Mais comment on peut faire un grand écart pareil? C'est pas possible de partir dans un tel gouvernement. Non,
Pourtant, il y avait des mecs sympas au gouvernement. Il y a Brice Hortefeux, oui, il y a Eric Woerth, il y a Éric Besson, bon, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Christine Lagarde...
Oui, bien sûr.
Alors, comment vous avez appris qu'il allait entrer au gouvernement?
Alors, c'était l'heure d'une assemblée générale. Et il a eu un coup de fil. Et il a un petit peu pris la salle à témoin en disant « J'ai un coup de fil, je suis appelé au gouvernement ». Il cherchait à avoir, j'ai le sentiment, hein, il cherchait à avoir l'assentiment, justement, de l'assemblée. Mais là, il n'y a pas eu. Il y a eu un blanc.
Pourtant, dans les portraits de Martin Hirsch, il explique, finalement, si j'y suis allé, c'est pour rendre service d'abord aux pauvres, hein, c'est par fidélité envers les pauvres, par fidélité à l'abbé Pierre, et parce qu'il y a des gens d'Emmaüs qui m'ont dit, si, vas-y, tu seras plus utile là-bas.
On ne voulait pas qu'il y ait une trop grande collusion entre une association comme Emmaüs France et... le gouvernement, alors surtout ce gouvernement-là, excusez-moi, je ris, mais parce que c'est tellement les deux opposés. Enfin,
comment réagit Assal quand il a dit bon voilà.
Un blanc. C'était un peu médusé.
Mais il n'y a personne qui s'est levé dans la salle en lui disant vendu, traître.
Non, mais je pense qu'il y en a qui ont eu envie de le faire, oui. Attendez, mais il s'est vendu là. Il a vendu son âme. Moi, pour moi, personnellement, c'est une forme de traîtrise.
Et vous lui avez dit déjà ça ?
Non. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'une petite mère Lefebvre ? Emmaüs, attendez, c'est plus son truc, hein, c'est pas sa sphère. Hein. On n'est plus dans la même cour. Hein.
Mais vous ne voudriez pas lui dire, alors ?
Oui, je serais capable de lui dire, mais de toute façon, malheureusement, j'ai toujours l'impression que ces gens-là n'entendent pas.
Parce que sinon, vous pouvez venir avec nous ce soir ?
Ah non. Tout simplement parce qu'il faut que je garde mes petits-enfants. Et en plus, j'ai mon fils qui rentre des sports d'hiver avec un bras abîmé. Donc là, je suis retenue ce soir.
Les uns et les autres, on côtoie, on travaille, on se bat, on a des idéaux.
France 3, 17 octobre 2007, Martin Hirsch.
Pour faire en sorte que la pauvreté diminue nettement.
Alors que la pauvreté diminue nettement, l'objectif, c'est de la faire diminuer de 30% en 5 ans. Alors, pourquoi 30%? Pourquoi 5 ans? C'est vraiment un calcul ou c'est un chiffre qu'on a décidé comme ça?
Non, c'est parti de la chose suivante. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais il y a un premier ministre anglais qui s'appelait Tony Blair, qui un jour a fait un discours en disant « Avec moi, on va éradiquer la pauvreté des enfants en 20 ans ». Alors ça, tout le monde est capable de dire ça, puisqu'il n'y a plus personne pour les jeunes.
Voilà.
Et 5 ans après, effectivement, ils avaient fait à peu près le quart du chemin. Et donc quand, en France, on s'est réunis avec les syndicats, les associations, pour se demander si on pouvait aussi avoir un plan ambitieux, des mécanismes d'évaluation, un objectif, etc., on s'est dit qu'on pouvait quand même pas avoir du retard par rapport aux Anglais, et donc de se dire qu'on devait faire le même chemin en 15 ans, puisqu'on commençait 5 ans après, et donc le premier tiers, il doit se faire les 5 premières années.
Alors là, dans le 5e arrondissement à Paris, rue des Écoles, on va aller assister à la projection de La Force des Faibles, un film sur Emmaüs, avec nous a annoncé avec vous nous annoncer son service de presse la présence de Martin Hirsch, la présence du haut commissaire aux solidarités actives Martin Hirsch. Alors j'ai dans ma poche, je sors un ouvrage de Martin Hirsch et l'abbé Pierre, manifeste contre la pauvreté. Alors j'ai acheté 3,70€ chez Gilbert Joseph. Livre de poche, ça ne devrait pas ruiner France Inter. On va aller le faire dédicacer par Martin Hirsch si on le croise. Et là, à l'entrée du cinéma, il y a un petit cocktail. On a mangé une banane avant, mais il y a un petit cocktail. Vous avez vu passer Martin Hirsch?
Non, je n'ai pas vu Martin.
Parce que j'ai un livre à lui faire dédicacer.
Je ne suis pas sûr qu'il soit là ce soir, sinon il nous aurait prévenu. Hein.
Ah bon?
On l'a invité, bien sûr. Hein, mais, mais on m'a dit, dans le mouvement, il est tellement chez lui que voilà, il vient, il n'y a pas de souci. Hein. Il est chez lui. Donc, mais je ne l'ai pas vu encore. Hein.
Tiens, le voilà.
Bonjour, monsieur Hirsch. Ma grand-mère a adoré l'abbé Pierre. Elle vous aime beaucoup aussi. Est-ce que vous pourriez lui faire une dédicace?
Avec plaisir, à votre grand-mère. Hein. Ça.
Alors, comment vous avez fait pour arracher 1,5 milliard d'euros au gouvernement pour faire le RSA?
Il faut que tu écris tout ça. Donc,
comment elle s'appelle, votre grand-mère?
Elle s'appelle Christiane.
D'accord. D'accord.
Alors, comment vous avez fait pour arracher 1,5 milliard d'euros?
Attendez. Voilà.
Pour Christiane.
Voilà.
Qui connaît bien.
Voilà.
Emmaüs, alors comment vous avez fait pour arracher 1,5 milliard d'euros à Éric Woerth, à vos amis du gouvernement, Christine Lagarde?
C'est juste que c'était un bon projet et qu'effectivement, Emmaüs, j'ai appris à me battre pour les bonnes causes. Voilà, donc,
mais par exemple, quand il y a 7 milliards d'euros qui sont arrachés pour l'exonération des plus-values exercées sur les actions, c'est 7 milliards d'euros par an. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que 7 milliards d'euros pour les actionnaires et 1,5 milliard d'euros pour les pauvres, c'est un peu déséquilibré?
Et vous proposez quoi? Qu'il y ait 0 milliard pour les pauvres, du coup? Donc, c'est pour ça que Il vaut mieux les arracher que de ne pas les avoir arrachés.
Mais vous n'avez pas le sentiment d'être un peu là?
Alors là, Martin Hirsch, alors là, il s'est éloigné en plein milieu de ma question. Il rejoint un groupe d'amis. On va l'attraper.
Bonsoir.
Bonsoir, Carlos Pinsky, France 5.
Et vous n'avez pas le sentiment d'être un peu la caution sociale du gouvernement?
Écoutez, c'est vrai que vous en pensez. Vous êtes à peu près le 83e millième à me poser la question.
C'est peut-être parce qu'elle a une certaine justesse.
Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas avoir une tête de caution.
Vous savez, ce matin, on interviewait une salariée d'Emmaüs qui était là depuis 40 ans à Emmaüs, qui disait finalement il s'est mis dans la lumière de l'abbé Pierre. Il en a, avec ce livre par exemple, attrapé la lumière, et puis ça lui a servi de piédestal pour entrer au gouvernement. Et moi, ce que j'ai pensé quand je l'ai vu entrer au gouvernement, c'est un vendu, c'est un traître.
Ouais, écoutez-moi, j'ai passé... Bonjour.
Il est à Lille, mais il arrive à...
Ça va bien? Moi, je suis fier d'avoir passé 5 années aux côtés de l'abbé Pierre. Je pense que toutes celles et tous ceux qui ont connu et côtoyé l'abbé Pierre sont plutôt sortis grandis. J'ai discuté de tas de choses avec lui.
Parce que la question, c'est pas autour des 5 ans passés aux côtés de l'abbé Pierre, c'est plutôt autour des 2 ans passés aux côtés de Nicolas Sarkozy, de Eric Woerth, de Christine Lagarde, voilà. Qui servent les affaires.
C'est pas la peine d'être agressif comme ça, quoi.
Moi, agressif?
Ah oh, ouais, très agressif. Je trouve que vos certitudes sont un peu fortes, quoi. Vous vous arrogez de parler comme ça. Va. Je trouve que ça... avant d'accepter de rentrer au gouvernement, j'ai eu une discussion avec beaucoup de gens d'Emmaüs. Ils s'étaient l'Assemblée générale d'Emmaüs et je leur ai dit, ben voilà, je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et je me souviens, ça a été déterminant, la plupart d'entre eux ont dit, te dégonfle pas, vas-y.
Donc, ça, c'est ce que vous racontez, mais c'est pas le son de cloche qu'on obtient quand on mène une enquête auprès des travailleurs de base d'Emmaüs qui, ce jour-là, se souviennent d'un blanc dans l'Assemblée et qui n'était pas un blanc-seing délivré à Martin Hirsch. Pourquoi vous posez votre main sur le micro
là? Parce que je vais arrêter, là.
Et vous maintenez, votre objectif de réduction de 30% de la pauvreté?
Absolument, le gouvernement maintient.
Et vous êtes au courant qu'il va y avoir 1 million de fins de droit cette année?
Mais oui, je suis au courant.
Malgré ça, vous dites 30% de réduction de la pauvreté?
Absolument.
Vous savez que sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui y croit. C'est une stade de plus. Bon, ben voilà, ils font mumuse au gouvernement.
Bon, ben là, je comprends pas parce que... Pour la deuxième fois, Martin Hirsch s'en va, alors que dans les échos, Martin Hirsch a déclaré « Je préfère la saine polémique à la pesante indifférence ». Et là, ben, pour la deuxième fois, Martin Hirsch fuit un peu mes questions agressives, il paraît. Je vais peut-être le laisser tranquille cette fois-ci.
Ça va ?
Alors je vais lire ce qu'il a écrit à ma grand-mère pour Christiane. Pour Christiane qui connaît bien Emmaüs, avec toute ma sympathie, Martin Hirsch. Bonne soirée, monsieur Hirsch.
Pauvre Martin, on le retrouvera demain quand même, parce que c'est que une partie de l'enquête. Il y a d'autres choses à dire, probablement, sont un petit peu plus objectives que Monsieur Hirsch ait l'occasion de répondre et de s'expliquer un peu plus longuement.
On le remercie en tout cas, ainsi que Christophe Deltombe. Merci également à Christiane. C'était un reportage d'Olivier Vilain et François Ruffin. La suite donc demain. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires. Vous pouvez faire la même chose sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Gilles Gaillard, Coy Nguyen et Raphaël Moutert ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot. Et Céline Rouzet attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Réfond retraite.
Allô, le 30-25 ? Dites, je suis dans la fonction publique et je m'inquiète au sujet de ma retraite. Je voulais savoir, c'est quoi cette histoire de rente à vie ? C'est possible, même avec mon salaire ?
Préfond vous répond au 30-25, appel gratuit ou sur préfond-retraite.fr. Préfond retraite. Complémentaire et nécessaire.
Monsieur et Madame Gauthier, voulez-vous prendre pour logement la maison de Monsieur Fontaine ici présent ?
Oui.
Monsieur Fontaine, propriétaire d'un pavillon, acceptez-vous de prendre pour locataire la famille Gauthier ici présente ?
Ah oui ?
Je vous déclare unis par les liens de la nouvelle garantie des risques locatifs.
Un contrat d'assurance qui garantit le propriétaire contre les risques d'impayés de loyer et les dégradations. Un accès au logement plus facile pour les locataires. Tout le monde dit oui à la nouvelle garantie des risques locatifs. Renseignez-vous sur grl.fr.
C'était un message du ministère du Développement Durable et de Action Logement.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour. Le montant du jackpot de ce mercredi est de 7 millions d'euros. Je répète, 7 millions d'euros.
Montant à partager entre les gagnants du premier rang.
Chérie, l'ampoule a sauté, puis la remplace par une ampoule basse consommation.
C'est vraiment intéressant.
Mais oui, elle dure 8 fois plus longtemps et consomme 5 fois moins d'énergie.
D'accord.
Passer au durable, ça marche. Du 1er au 7 avril, c'est la semaine du développement durable. Retrouvez les manifestations sur semaine-du-développement-durable.gouv.fr. Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
France 4, on fête nos 5 ans et Patrick Timsit non plus n'a pas l'âge de raison.
Hop, 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 c'est par là, c'est à moi qu'on m'a donné carte blanche. J'ai invité quelques camarades, évidemment. C'est quoi le thème ? On va faire du politiquement correct.
Paris fait sa comédie et Patrick Timsit a carte blanche en direct ce soir à 20h35 sur France 4.
Eh ben nous, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de journée à tous. Je vous laisse pour les informations avec Angélique Bois. Salut.
De retour des États-Unis, Nicolas Sarkozy doit présider le Conseil des ministres, exceptionnellement remis à cet après-midi, 17h. Conseil au cours duquel Éric Besson, le ministre de l'Immigration, va présenter son nouveau projet de loi qui durcit les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. Désavoué par les juges des libertés et de la détention qui avaient libéré en janvier dernier les 123 Kurdes débarqués en Corse, le ministre avait annoncé son intention de modifier la loi. C'est la cinquième fois en 7 ans. Brice Hortefeux s'engage à mieux sécuriser les gares les plus sensibles de la région parisienne, mais aussi certaines autres en province, comme celle de Marseille-Saint-Charles. Lors d'un déplacement dans l'Oise, le ministre de l'Intérieur a confirmé que des caméras supplémentaires seraient bien installées dans les stations, mais aussi dans les trains. Il détaillera un plan plus global de sécurisation la semaine prochaine. Arrow sur le bouclier fiscal, alors que ce dispositif commence à faire grincer des dents à droite, à gauche, les déclarations se succède. Après Martine Aubry et François Hollande, Ségolène Royal réaffirme son opposition à cette mesure qu'elle juge elle aussi injuste. Elle pense que la droite va céder à la pression publique parce que, dit-elle, il y a une soif de justice. Le sujet pourrait être abordé ce soir lors de la rencontre entre le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, et les députés de l'UMP. Après un mois de suspense, l'homme d'affaires turc attendu comme le sauveur de Liège a déçu. Alfan Manas propose de racheter 15% seulement de l'équipementier automobile placé à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Offre qualifiée d'insuffisante par le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Il va étudier d'autres dossiers qui pourraient venir compléter cette offre. L'homme qui a semé la panique ce matin dans une classe du lycée Monet de Strasbourg est toujours introuvable. Cagoulé et armé, il est entré dans une salle en plein cours d'allemand. Il a menacé le professeur et tiré dans sa direction, mais sans la blesser. La police pense qu'il a utilisé une arme factice qui a produit de la fumée, mais qui était donc sans danger. L'inconnu s'est ensuite enfui, poursuivi par l'enseignante, mais il a disparu. Une enquête a été ouverte. Pour une raison encore inconnue, un avion radar américain s'est abîmé en mer d'Oman ce matin. Trois des membres d'équipe l'équipage ont été repêchés, mais le quatrième est toujours recherché. L'avion appartient à la 5e flotte américaine basée à Bahreïn. 138 pays sont réunis à New York depuis quelques heures pour plancher sur la reconstruction d'Haïti, dévastée par le séisme de janvier. La communauté internationale est appelée à donner près de 3 milliards d'euros tout de suite pour aider à remettre en route ce pays le plus pauvre du continent américain. Les besoins sont ensuite évalués à 8,5 milliards d'euros sur 10 ans. Les États-Unis ont déjà promis de débloquer l'équivalent de 850 millions d'euros.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquil.
Notre invité ce mercredi est Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur. Après la défaite de la majorité aux élections régionales, comment Nicolas Sarkozy et le gouvernement peuvent-ils rebondir ? Rendez-vous avec Brice Hortefeux dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20.
France Inter, partenaire du premier bilan géostratégie du monde. Ce bilan passe en revue les conflits en cours et les grandes questions stratégiques du moment. Il dresse les principaux enjeux qui se profilent pour l'avenir et détaille l'état des forces armées de plus de 150 pays. Le bilan géostratégie du monde, à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence.
16h04, je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, comme c'est mercredi, le jour des enfants, c'est peut-être l'occasion de vous parler des opéras pour les enfants, une jolie collection proposée par Deutsche Grammophon. Alors c'est surtout le livret, parce que la musique, c'est la musique pour les grands, hein. Ce sont vraiment des enregistrements superbes. Par exemple la Traviata, ça n'est pas forcément un sujet très amusant, puisque la pauvre Violetta va finir par mourir alors qu'elle a trouvé l'amour. Bon, est-ce que c'est vraiment pour les enfants? Mais enfin si, les enfants peuvent comprendre bien des choses. Alors qu'est-ce qui les concerne là-dedans? Ben, c'est un livret avec des illustrations, des personnages qui ont des grands yeux, un peu comme dans les mangas, et puis il y a des couleurs fraîches. Quant aux explications elles-mêmes, ben, je sais pas, je vous laisse juger. Pour l'acte 1, il fait très chaud à Paris ce soir-là, et Violetta a décidé de laisser toutes les fenêtres ouvertes. La brise qui monte de la Seine fait flotter les rideaux. Violetta finit de disposer les fleurs dans le vase et soupire. Alors, elle sait qu'elle est malade, et pourtant, elle essaye d'être heureuse quand même. C'est la première soirée qu'elle donne après des mois de maladie et de tristesse. Les réceptions et les amis sont le meilleur remède pour toute maladie, et Violetta le sait. Et puis on va porter un toast, bien sûr. Il y a donc marqué plage 2, Brindisi, et puis on donne l'explication globale de ce qui se passe. Alfredo, le futur amant, donc boit, les yeux rivés sur Violetta qui le regarde en retour. L'orchestre continue de jouer et les amis de Violetta veulent encore danser, et Violetta se tourne vers eux. « Je vais danser aussi », dit-elle.
Amore, 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 amore
Dizzy, le toast de la Traviata de Giuseppe Verdi, Placido Domingo, le ténor, le jeune Germont, et puis Ileana Cotrubas, c'est Violetta. Et à la baguette, un chef d'orchestre devenu légendaire, c'est Carlos Kleiber avec l'orchestre d'État de Bavière. Dans le texte original, il est dit « Buvons joyeusement dans ce verre resplendissant de beauté et que leurs passagères s'enivrent de volupté ». Voilà, ça c'est pour les plus grands. Et c'est résumé pour les plus jeunes, je l'ai dit, dans cette série pour les enfants. L'opéra pour les enfants. Et un peu plus loin, elle essaye d'y croire, Violetta, mais elle ne peut pas vraiment, donc elle gagne sa chambre, elle est très fatiguée, mais elle sait qu'elle ne pourra pas dormir. Je lis toujours le livret de ce